Bon, donc bonjour à tous. Bienvenue à ce premier séminaire étudiant du cycle sécurité, normativité et mondialisation organisé par le Centre de recherche en droit public et le regroupement droit et changement. On va écouter aujourd'hui François Leborg, qui est doctorant ici à l'Université de Montréal à la Faculté de droit, dirigé par M. Guy Lefebvre, qui était là il y a quelques minutes, je ne sais pas s'il va revenir, dont la thèse porte sur le droit maritime, que lui permettre de vous en parler un peu plus. On devrait normalement avoir un buffet qui normalement est là avant midi. Malheureusement, il y a un problème avec le traiteur, donc ça devrait arriver d'une minute à l'autre. Donc, on fera une petite interruption pour vous permettre de prendre une assiette lorsque le buffet arrivera. Donc, soit qu'on ait une introduction, ensuite, pause collation, puis on poursuivra. J'en profite pour quelques messages d'intérêt public. C'est le premier séminaire du cycle, évidemment, qui dit premier, vu qu'il y en aura d'autres. Si vous dirigez sur le site web du CRDP, www.crdp.umontréal.ca, vous avez la liste de tous les étudiants qui font une présentation cette année. Encore une fois, comme l'an dernier, on a décidé d'inviter les gens de d'autres disciplines. Donc, on va avoir des anthropologues cette année, des sociologues, des gens en éthique. Et également, cette année, une nouveauté, on essaie d'intégrer les gens du regroupement droit et changement. C'est-à-dire qu'on va avoir des étudiants de McGill et de l'Université Laval qui vont contribuer au séminaire. Également, on va organiser probablement au mois de février, la date n'a pas encore été fixée, un colloque étudiant, pour ceux qui étaient l'an dernier, c'est une journée donc où on va avoir plusieurs étudiants qui vont échanger sur leur sujet de thèse. Cette année, je vous l'annonce en primeur, ce sera à l'Université Laval, à Québec. On va organiser le transfert donc pour tous ceux qui veulent y assister. On va avoir un autobus gratuit donc qui va se rendre jusqu'à l'Université Laval pour qu'on puisse échanger. Encore une fois, c'est dans le cadre des activités du regroupement droit et changement, pour permettre à tous les étudiants des trois universités membres d'échanger notamment sur leur sujet d'étude. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à François qui va nous parler du transgouvernementalisme, une gouvernance publique en réseau pour mieux contrer les effets pervers de la globalisation.
Bonjour. Alors, mon nom, comme vous savez, François Leborg. Juste pour faire une petite présentation de l'orateur ici présent devant vous. Oui, je suis étudiant au doctorat à l'Université de Montréal, ici, avec le professeur Lefebvre, mais aussi en co-tutelle avec l'Université d'Aix-Marseille, l'Université Paul Cézanne, avec le professeur Christian Scapel. Juste pour vous donner un aperçu de mon passé, je peux vous dire que j'ai fait un bac en droit, mais aussi un bac en sciences politiques. Vous allez voir des relations au cours de la conférence avec la science politique. J'ai fait une maîtrise ici aussi en droit avec sur la sécurité maritime. Bon, je suis membre du barreau. Et aussi, j'ai travaillé comme avocat plaideur à la commission des normes du travail pour le gouvernement. Vous allez voir encore là les intérêts qui y sont. Et j'ai été conseiller juridique à la Société québécoise d'information juridique. En introduction, tout ce que je voudrais vous dire, c'est que, bon, j'utilise le terme de transgouvernementalisme, mais j'utilise ce terme simplement comme une traduction directe de ce qui est utilisé dans la doctrine anglophone. En fait, au niveau francophone, il n'y a pas grand-chose sur le transgouvernementalisme. Je vais tenter de vous expliquer le transgouvernementalisme par une métaphore. Je ferai par la suite un historique de la notion pour montrer son évolution à travers les 50 dernières années, peut-être. Ensuite, je veux faire un lien avec les différentes théories qui pourraient vous interpeller. Entre autres, avec les théories du public choice, les théories, le public choice qui est lié à l'analyse économique du droit, aux théories liées aux communautés épistémiques, c'est de la sociologie du droit. Et ensuite, avec les théories de la soft law. J'espère qu'à travers ce survol de ces trois théories, vous serez capable de faire des liens avec le transgouvernementalisme. Alors, présentation de la métaphore du transgouvernementalisme, c'est une technique que j'ai développée quand on rencontre des amis, de la famille, et qui sont des néophytes au plan juridique. Souvent, ils vous demandent François, sur quoi est-ce que tu travailles? Ben, j'ai développé la fâcheuse habitude de répondre comme un universitaire qui se glorifie de ses études et qui va utiliser le terme qui impressionne. En ce moment, je travaille sur le transgouvernementalisme. Souvent, la réponse est un long silence. Et à ce moment-là, je comprends bien que ça ne leur apporte pas grand-chose, sinon de savoir que je me porte bien. Pour ceux qui m'ont fait l'honneur de me poser la question et de me renvoyer la balle en me posant la question, qu'est-ce que le transgouvernementalisme? J'ai dû développer une technique simplifiée. Vous savez, quand on rencontre des gens comme ça sur un coin de table, on n'a pas nécessairement un papier, un crayon pour expliquer une grande théorie, une vaste théorie qui est très grande, qui est très large. Alors j'ai dû développer une métaphore. En fait, démarrons immédiatement sur cette métaphore. Imaginons un moment, comment est-ce qu'on pourrait représenter l'État par un organe humain? La main. La main est peut-être la meilleure représentation de l'État. En effet, si on regarde une main, on est capable d'imaginer, vous pouvez regarder votre main si vous voulez poursuivre le cheminement, la paume inférieure, les organes de pouvoir législatif, la base, la source de l'État. La paume supérieure, les pouvoirs exécutifs, et les doigts, bon, on en a cinq, mais les doigts, ce serait les agences gouvernementales. Agences gouvernementales qui aujourd'hui sont très autonomes dans la fonction publique.
Il y en a plus que cinq, quand même.
Il y en a plus que cinq, mais je n'ai que cinq doigts à mes mains. Et en soi, les agences gouvernementales, donc, sont des agences très expertes, autonomes, elles agissent avec autonomie parce qu'elles ont une expertise. En fait, l'État est capable d'agir sur une capacité souveraine sur les objets, pas sur les objets, mais sur des secteurs d'activité. Elle est capable de jouer de sa souveraineté de coercition pour exercer un contrôle de régulation. Et elle est capable aussi de traiter et de collecter de l'information. En la main, dans le même exemple, est capable de prendre un objet. Il est capable de traiter de l'information de l'objet, elle est capable de manipuler de l'objet. Elle est capable de lui donner une direction ou même de la forcer, si elle le veut. Bon, je ne vais pas éclater ma tasse en aluminium, là, ça c'est impossible. Mais néanmoins, si c'était une tasse en porcelaine, je pourrais l'essayer. Mes doigts, étonnamment, me permettent de collecter de l'information sur l'objet. Est-ce que c'est froid, c'est dense, c'est en bois, c'est en métal? De la même façon que les agences gouvernementales sont en contact direct avec le secteur d'activité qu'ils contrôlent. Donc, ils sont capables de collecter de l'information sur des spécificités et de renseigner le reste de l'État sur ce qui se passe. En 1970-1980, il y a une nouvelle situation qui intervient au niveau mondial. C'est la crise pétrolière. En fait, il y a une situation où les entreprises développent un nouveau processus qui est le processus de globalisation. Oui, il existait avant, mais il s'est accentué. Il s'est accentué durant cette période et entre autres par des techniques de délocalisation. Et entre autres, cette technique de délocalisation, elle est inspirée par un besoin du profit. Elle est inspirée par le besoin des entreprises de contourner les agences gouvernementales, de contourner les États qui imposent des normes les plus strictes, les plus dures. En fait, elles vont chercher des États qui leur offrent des normes de production beaucoup moindres, beaucoup plus faibles. Ils vont donc délocaliser dans des pays en voie de développement. Il y a une certaine complaisance, une certaine concurrence entre les États. En fait, on arrive à une situation de course vers le fond, race to the bottom. En fait, si je renvoie à ma métaphore, on pourrait se poser la question à savoir si on demande encore à la main de devenir un objet, ou si plutôt on lui demande de devenir un fluide. Qu'est-ce que vous voyez, intervient en tout cas. À l'image de l'eau qui coule sur la main, le secteur d'activité économique est capable de dépasser les limites de ma main et de passer à travers les interstices de mes doigts, comme le font les industries qui délocalisent et vont au-delà des frontières. Durant cette période, durant 10 ans peut-être, les fonctionnaires ont certainement été dépassés par les événements. Ils ont dû se demander, est-ce que nous sommes si seuls? Ils ont dû se tourner vers le ciel, ils ont dit, est-ce que nous sommes si seuls? Est-ce que nous sommes seuls à devoir endurer ce dépassement, cette perte de capacité, d'autant plus que vos budgets diminuent avec la perte de l'État-providence, est-ce que nous resterons seuls comme ça? C'est à ce moment-là qu'ils ont dû avoir une illumination. Ouais, ils ont dû avoir une illumination en se tournant vers le ciel. Ils se sont dit peut-être que nous n'étions pas si seuls que ça. Peut-être que nous étions plutôt plusieurs à partager la même situation, à être dépassés par la globalisation. En fait, peut-être pourrions-nous communiquer, nous rapprocher ensemble, partager. C'est à ce moment-ci qu'ils ont compris que peut-être il pourrait y avoir des réseaux de communication et de coordination à la même échelle que mes mains. Mes mains qui sont capables de contenir beaucoup plus d'eau. Je pourrais faire l'exemple, je pourrais demander à M. Mackay de me verser un peu d'eau dans les mains, s'il le veut bien. Oui, en gros, allez-y.
Donc,
allez-y. Très bien, merci. Vous voyez donc que je suis capable de contenir beaucoup plus d'eau en faisant une cuvette avec mes mains. Bon, OK, il y a des fuites, là, mais néanmoins, on voit que vous comprenez le principe. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a simplement, à l'image de mes mains, une coordination entre les agences gouvernementales. Prenez vos mains ensemble, vous allez le voir, les paumes sont collées. Ensemble, c'est une harmonisation des lois, des règlements, bien sûr, au niveau exécutif, au niveau législatif. Mais on voit que la seconde moitié est occupée par des doigts qui se superposent et qui créent un réseau entre eux. Et non seulement qui créent un réseau entre eux, mais ils communiquent entre eux pour être capables de délimiter où sont les fuites et essayer de les contrer. Et ça, de manière instantanée. C'est un peu par cette image métaphorique que je veux vous expliquer le transgouvernementalisme. En fait, c'est peut-être la seule image que vous allez garder de cette conférence. On en retient seulement 10%, 15% de cette conférence. Passons maintenant à l'évolution du transgouvernementalisme. On va passer maintenant un peu plus à la théorie. Il n'y aura plus d'arrosage de plancher maintenant. En 1958, Philippe Jessop mentionne déjà qu'il existe un droit transnational, un droit qui transcende les frontières au niveau géographique, au niveau des domaines du droit public et privé. C'est quelque chose de nouveau. En 72-74, les auteurs Keohane et Nye soulignent l'existence d'une notion d'activité ou de relation transgouvernementale. Le mot est lancé, transgouvernementale. Cette notion est isolée de celle plus générale du droit transnational. Ce sont des interactions entre des sous-unités de différents gouvernements qui ne sont pas nécessairement contrôlées ou dirigées par des instances politiques. Il y a une coordination du politique et une construction de coalition. Durant 20 ans, étonnamment, il y a un long silence. Ce n'est qu'en 1994 que Les Metcalfe va réactualiser le concept et va dire qu'il y a des réseaux inter-organisations qui intensifient les relations latérales et horizontales entre les administrations réglementaires européennes. Il prend l'exemple de l'Europe qui se construit. Il va faire une typologie à 9 niveaux du transgouvernementalisme. Je vous le mentionne très rapidement pour ceux que ça pourrait intéresser. Il y a d'abord, c'est un niveau évolutif, donc c'est du plus simple au plus compliqué. Il y a le processus de prise de décision organisationnelle indépendant. Il y a ensuite les communications avec les autres organisations. Ensuite, les consultations avec les autres organisations. Je ne me répète pas, j'ai bien dit consultation. Ensuite, il y a élimination des divergences entre organisations. recherche d'un accord sur les politiques, arbitrage des divergences de politiques, formulation de critères d'action, formulation des priorités et enfin la stratégie globale. En 95, ça fait pas si longtemps que ça. Abraham Chayes, Antonia Handler Chayes, deux auteurs, souligne que la souveraineté des États est menacée et l'État doit coopérer avec les autres pour atteindre des objectifs de protection face à l'interdépendance des économies. En 97, Anne-Marie Slaughter écrit un nouvel article intéressant qui sera le fondement en fait, du transgouvernementalisme moderne, article intitulé « The Real New Order ». En fait, elle parle d'un nouvel ordre transgouvernemental et elle explique que malgré la globalisation, les États ne disparaissent pas en soi. En fait, ils se désagrègent. Ils se désagrègent, mais ils vont créer des réseaux avec les autres entités désagrégées des autres États. On voit qu'il y a un phénomène à l'horizontale et non plus un phénomène hiérarchique. Les bureaucrates, elle souligne aussi que les bureaucrates en charge de la régulation collaborent avec leur contrepartie étrangère à travers des mémorandums d'entente, des protocoles d'entente, des ententes administratives. En 2000, l'auteur Chick va mentionner qu'il existe un réseau transgouvernemental. Le mot est encore plus affiné, il y a un réseau qui implique des contacts fréquents entre des bureaucrates, ainsi que l'existence d'intérêts communs pour coordonner la mise en place de politiques. Les réseaux transgouvernementaux s'inscrivent dans une stratégie de renforcement du droit domestique face à la globalisation. En fait, il souligne qu'il y a un terrible bouleversement de la diplomatie internationale. On est devant une gouvernance globale. Ça ne se limite plus aux États. Chick met en place une typologie aussi des réseaux qui est, qui évolue dans un continuum plus simple ou plus compliqué, toujours, à savoir la dissémination transversale des échanges d'idées. On échange des idées. Les réseaux de coordination, on commence à se coordonner. La reconnaissance mutuelle des lois domestiques, non seulement on se coordonne, mais on s'identifie à l'autre en intégrant ces lois. Et enfin, des réseaux d'harmonisation des normes de régulation entre partenaires. On crée ensemble des lois. Ou des lois, ou des politiques. En 2001, Anne-Marie Slaughter fait référence, elle revient à nouveau, fait référence au phénomène de réseau gouvernemental ou de réseau de régulation transgouvernementale. En fait, elle souligne que les agences administratives coopèrent à travers des réseaux. Il s'agit d'une nouvelle forme de gouvernance globale où les États sont capables de centraliser des organisations internationales. Il s'agit d'une nouvelle forme de gouvernance globale où les États sont capables de travailler ensemble sur des problèmes communs sans avoir à passer par des bureaucraties centralisées. Ces réseaux sont flexibles, rapides et décentralisés. Elle mentionne une nouvelle typologie liées au transgouvernementalisme. Il s'agit en fait, il peut y avoir des réseaux de régulateurs nationaux travaillant dans un contexte d'organisation internationale publique. Ça, c'est les réseaux du GATT, les réseaux de l'OTAN, les réseaux du FMI, où c'est un type commun et les décisions de ces organes internationaux sont souvent basées sur le travail et les recommandations des représentants régulateurs politiques et décideurs politiques des pays membres. Il y a une autre forme de typologie qui est celle des activités transgouvernementales s'inscrivant dans un cadre d'accord exécutif. On est simplement des membres de l'exécutif des États et on s'entend entre nous simplement. Et c'est souvent ce qui se passe dans le cadre du G8 ou du G22. Un G8 beaucoup plus élargi. Enfin, il y a ce qui nous intéresse particulièrement ici, les réseaux spontanés de régulateurs, où les régulateurs domestiques, et là on entend par là les agences gouvernementales, se rencontrent sans qu'il n'y ait de travail ou d'autorisation des représentants politiques du pouvoir exécutif. Les régulateurs évoluent à l'extérieur de tout cadre formel. Il existe deux types de réseaux spontanés, des réseaux qui s'institutionnalisent eux-mêmes comme des organisations transgouvernementales, ou encore, je l'ai mentionné tantôt, des ententes administratives comme les protocoles d'entente ou les mémorandums d'entente. Je termine. En 2002, Imé Zamaher nous donne, je crois, la meilleure définition du transgouvernementalisme. Je la traduis simplement. Caractérisé par une coordination horizontale, décentralisée, informelle, entre des fonctionnaires partageant des intérêts fonctionnels communs, le transgouvernementalisme représente un paradigme alternatif au libéralisme international. Et on entend par libéralisme international quand nous sommes un État qui défendons nos intérêts propres à travers des organisations internationales. Voilà pour l'évolution du concept de transgouvernementalisme. Passons maintenant, je ne sais pas si...
ça sera avant la période de questions.
Bon, parfait. On continue donc. Alors, je vais donc aborder la troisième phase de mon exposé, qui est sur les questions, qui est sur justement les théories, les trois théories que je vais mettre en relation avec le transgouvernementalisme. Question de vous interpeller. Alors, passons tout de suite. Je vais aborder évidemment les questions du public choice, les questions des communautés systémiques et les questions de la soft law. Tout de suite sur le public choice, je veux vous renvoyer à cette idée qu'il s'agit de la rationalité des fonctionnaires à faire un compromis avec leurs collègues. En fait, dans ma métaphore, c'est la portion où il y a l'illumination. On va partir de l'idée où il y a où les fonctionnaires seraient animés d'un biais par l'exécution de leur travail. Un biais dans l'exécution de leur travail. En fait, ils cherchent des avantages au plan individuel. Ils veulent rehausser leur statut personnel, avoir un meilleur revenu, un meilleur prestige, un meilleur poste. Mais aussi au plan collectif, ils ont des objectifs. Ils veulent obtenir de meilleurs budgets, avoir une autonomie décisionnelle par l'exercice de pouvoir discrétionnaire et avoir la capacité d'imposer les politiques qu'ils croient utiles. Enfin, soulignons que les fonctionnaires choisissent une avenue qui maximise leur légitimité auprès des politiciens ainsi que de la population, permettant du coup d'augmenter leur pouvoir et leur confort. Dans un contexte de globalisation, le public choice s'inspire des choix. L'auteur Pekkonen mentionne qu'avec la globalisation, il existe un paradoxe lié à la nécessité pour les fonctionnaires d'engager leur pouvoir avec les autres administrations afin d'éviter de perdre ceci. Et perdre ceci au profit de qui? Au profit d'une libéralisation des marchés ou encore au profit d'une centralisation vers des organisations internationales. La globalisation, ils savent très bien, ces fonctionnaires d'agences gouvernementales, ils savent très bien que la globalisation n'autorise plus une intervention unilatérale des agences gouvernementales. En fait, ils savent que leur efficacité est réduite, ils savent qu'il y a une dynamique de concurrence, une dynamique de course vers le fond, une dynamique de complaisance, on l'a vu avec l'eau qui coulait de ma main. De plus, cette efficacité est d'autant plus limitée qu'il est depuis 1980-90 une restriction budgétaire imposante dans les administrations publiques. En fait, les bureaucrates ont un sens aigu de l'instinct de survie. Et ils comprennent qu'il peut être avantageux d'instaurer avec leur vis-à-vis étranger un système de coopération flexible et fonctionnel qui traverse les frontières et qui uniformise les interventions et homogénéise la régulation. En fait, cette méthode de coordination permet de réduire la capacité des entreprises à diriger leurs activités vers des états plus complaisants. Ainsi, en sacrifiant un peu de leur autonomie, ils s'assurent une conservation et une augmentation de leur capacité d'intervention. Soulignons, je le mentionne en passant, que les fonctionnaires sont toujours avides de défendre leur souveraineté. C'est une difficulté, en fait, lorsqu'ils vont négocier leurs ententes, d'assurer la préservation maximale de leur souveraineté. Et ce, en faveur de l'État duquel ils tiennent leur mandat et leur salaire. Je vais maintenant passer à la théorie des communautés épistémiques. En fait, ce serait, si on veut, c'est la passion affective qu'il y a entre les fonctionnaires, le partage de valeurs communes, c'est la mise en contact entre les mains lors de la métaphore. Soulignons que les agences gouvernementales sont des agences spécialisées, expertes. Elles ont donc une autonomie. Et les fonctionnaires qui composent ces agences ont donc une double appartenance. Ils sont fonctionnaires, ils sont aussi experts. Ils sont donc experts, ils sont tenus non seulement par la hiérarchie vis-à-vis du ministère, mais aussi vis-à-vis de leur corporation. Ces experts, ça peut être des médecins, des vétérinaires, des architectes, des ingénieurs, des comptables, etc., etc. En fait, pour vous renvoyer un peu à cette image, imaginez que vous soyez à l'emploi à la faculté de droit, vous êtes peut-être avocat, imaginez que vous soyez à l'emploi d'un ministère ou d'une agence gouvernementale, vous dépendez du ministre, mais vous dépendez aussi du barreau du Québec. Vous êtes pris avec ces deux contraintes. En plus, les experts, souvent, ils occupent la place de gestionnaires dans ces agences gouvernementales. Et ces gestionnaires experts, en fait, sont au carrefour de l'échange de l'information. C'est là où il y a le point de gravité de au niveau de l'information. En fait, ils sont au milieu d'une chaîne où il y a les parts du ministre pour aller vers la population, les directives parts du ministre pour aller vers la population. Mais en plus, la population vient faire des plaintes, vient faire des suggestions, et hop, ça remonte vers le ministre. Et eux ne font que transmettre l'information, mais ils la captent aussi. Par ailleurs, depuis 1970 peut-être, les transports internationaux se sont beaucoup démocratisés. Donc, il est plus facile de se promener d'un pays à l'autre, d'aller à une conférence. Pour ces gestionnaires, ce n'est plus seulement le personnel politique qui se promène à travers le monde, mais c'est aussi les gestionnaires qui vont à des conférences internationales et ils rencontrent tout à coup, ils sont architectes experts, ils rencontrent un nouvel architecte expert d'un autre État. On a des choses à partager, il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'échange nos cartes, il faut qu'on puisse communiquer par courriel. Bref, il y a un lien de communication. Et ils rencontrent aussi les experts, les gestionnaires experts, non seulement de d'autres pays, mais de d'autres, des organisations internationales aussi. On voit donc qu'il y a non seulement un axe de communication vertical, mais aussi un axe de communication horizontal avec leurs collègues étrangers. On arrive à la communauté systémique en ce sens où ces gens qui ont une formation, ces gens qui sont des experts ont une formation commune d'un État à un autre. Bon, il y a des variantes. Il y a un développement d'un langage propre au secteur d'activité entre ces fonctionnaires. Il y a une perception commune de la réalité des problématiques propres à leur secteur d'activité. Il y a une pensée, une réflexion fondée sur une expertise formée sur des valeurs communes. Par ailleurs, les normes minimales qu'on leur demanderait d'imposer font consensus auprès de toute leur communauté. On voit qu'il y a donc un échange d'informations et une base d'informations qui est déjà acquise. En fait, à travers les communautés systémiques et le transgouvernementalisme qui utilisent cette technique, il y a une expression du pouvoir où les rapports de force internes aux agences gouvernementales qui sont complexes, qui sont plus complexes que le simple rapport hiérarchique. Il y a en fait une culture sociale. Ils sont moins animés des préoccupations axées sur leurs origines nationales respectives plutôt qu'un processus de socialisation entre eux à travers des codes d'éthique implicites. Dans un cadre de transgouvernementalisme, ce sont des gens qui ont une expertise technique d'un domaine, ceux qui sont chargés d'appliquer les normes, qui créent leurs propres normes d'application sans que les politiciens interviennent ou les juristes puissent s'en mêler. Soulignons enfin pour les communautés systémiques qu'il y a là une base importante relativement à la communication. Il y a une mise en commun de l'expérience de chacun permettant d'identifier des solutions transposables à des problèmes communs. En fait, on renvoie à la méthode de l'expérimentation erreur-succès qui permet de résoudre des conflits ou de résoudre des problèmes. Et il y a aussi un partage d'informations entre les membres pour économiser des ressources matérielles. N'oublions pas qu'on est en pleine crise budgétaire publique. Dernière théorie, la sauce là. Droit mou, droit souple en français. En fait, c'est la vie en groupe, la vie en couple de ces fonctionnaires. C'est la coordination des mains à se maintenir ensemble pour contenir l'eau. Nous avons vu qu'Anne-Marie Slaughter faisait référence au protocole d'entente, au mémorandum d'entente. Il s'agit là d'ententes qui sont purement administratives et qui ne constituent pas des conventions internationales. Nous sommes en fait dans une antichambre entre le droit international et les relations internationales. En fait, il s'agit d'une norme interstitielle au droit positif international. C'est une norme interstitielle qui s'adapte aux réalités du moment. Jacques Chevalier mentionne que pour être efficace, je ne le sais pas, mais je l'interprète, pour être efficace dans l'atteinte des objectifs fixés par leur mandat, les agences de régulation n'ont d'autre choix que d'opter pour une mesure complémentaire au modèle de régulation traditionnelle et rigide. Pour ce faire, ils doivent pouvoir s'adapter rapidement aux changements qui surviennent dans leur secteur d'activité. Le processus de gouvernance devient ainsi plus flexible, plus fluide. Ces normes interstitielles n'ont aucune valeur normative au sens traditionnel du droit, mais elles peuvent avoir un effet normatif sur l'application des normes primaires du droit international. En fait, soulignons aussi que la légitimité de la norme interstitielle s'établit en fonction de l'autorité de son auteur, ainsi que de son effectivité et de son efficacité. Quant à la soft, continuons sur la soft law, il y a une autre dimension, à savoir que la soft law permet de réduire les coûts liés au processus de négociation, de conclusion et d'amendement des ententes. En fait, la soft law permet aux autorités étatiques d'exercer une discrétion d'action et de bénéficier d'une marge de manœuvre dans le processus de négociation internationale. Pour contrôler et appliquer les normes minimales reconnues en droit international, les mémorandums d'entente ou les protocoles d'entente administratifs n'ont pas à compléter le processus de ratification par les États. Donc, ils n'ont pas à passer par les parlements pour être adoptés ou pour être amendés. En fait, on mise sur une ambiguïté juridique, quelque part. On mise sur l'ambiguïté juridique d'instruments non contraignants, tout en privilégiant un sentiment d'appartenance. Enfin, la soft law permet une diminution des coûts associés à la négociation d'outils normatifs internationaux, lié à savoir que chaque État, durant des négociations, cherche toujours à éviter un engagement qui lui serait contraignant. En fait, il va toujours chercher à... Il va y avoir une dynamique où on va chercher le plus petit dénominateur commun au niveau des normes pour essayer de rassembler le plus de personnes possible et s'assurer qu'il y ait une ratification. Donc, les normes sont beaucoup plus basses. Peut-être qu'avec la sorte là, les normes seraient plus hautes. Il y a aussi, grâce à l'utilisation de la soft law, la volonté de ces derniers d'adopter des engagements clairs, ambitieux et plus grands lorsqu'ils ne sont pas contraignants. De cette manière, l'effort de régulation engagé serait plus large et plus volontaire. Enfin, de plus, la soft law permet de réduire la complexité des enjeux en éliminant les incertitudes liées à la portée juridique d'un accord. On a un accord. On négocie un accord, mais si on signe, qu'est-ce qui va se passer après? On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après cet accord et on hésite à y signer. La soft law permet de mettre de côté cette incertitude puisque l'accord n'est pas contraignant. Par ailleurs, soulignons que l'application de normes minimales peuvent être plus uniformes à travers le monde. À savoir que des fois, quand on veut signer des accords avec des pays qu'on ne reconnaît pas, du moins que des partenaires ne reconnaissent pas, il est peut-être bon de passer par des accords administratifs et non pas des conventions internationales qui nous permettraient de reconnaître cet État, qui ferait en sorte que l'on dirait qu'on reconnaît cet État. Si on passe par des accords administratifs, ça passe par les fonctionnaires et on n'a pas nécessairement à reconnaître un État pour lequel on est en guerre ou un État qui est nécessairement une dictature. En fait, ces mécanismes de soft law ont l'avantage de pouvoir promouvoir l'utilisation de cibles claires, ambitieuses, avec un intérêt pour des révisions régulières, des performances en lieu et place des structures légales souvent immuables. Tout cela laisse une part importante au caractère expérimental. Conclusion générale. J'espère que c'est bon. conclusion générale. Alors, nous avons défini le transgouvernementalisme par un modèle utilisant une métaphore. Nous avons pu décrire l'évolution de la notion de transgouvernementalisme. Nous avons pu faire des liens avec des théories comme diversifiées, comme la théorie du public choice, des communautés épistémiques, de la soft law. Dans les trois cas, nous avons pu retenir qu'il y a une volonté des agences administratives à vouloir se doter d'outils qui permettent un environnement propice à l'expérimentation. Comme en fait le font les entreprises dans une démarche de mise en production ou de commercialisation. Nous avons d'ores et déjà mentionné que le transgouvernementalisme pose des enjeux importants. Nous pouvons mentionner qu'il y a des enjeux importants en droit international. Le maintien de l'État comme acteur principal sur la scène internationale, ainsi que sur son territoire. Le déplacement du pouvoir réel des organes représentatifs vers les fonctionnaires. Une redéfinition de la souveraineté. Une reconnaissance d'une nouvelle dynamique normative en droit international, une interaction entre le droit et la science politique. Le transgouvernementalisme enfin pose des problèmes en regard des principes de légitimité démocratique. Absence d'accessibilité, ce sont juste des fonctionnaires qui se parlent. Absence de transparence, ils se parlent entre eux, mais à travers leurs canaux de communication. Manque de responsabilité, ces fonctionnaires ne sont pas des députés. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à...
Merci François. Je m'excuse pour le repas. On a notre repas, j'ai l'impression qu'il est pris en place leur antenne à faire la fête avec les étudiants. donc, évidemment, s'il y a des questions, je suis sûr que François serait bien heureux de les entendre et de les répondre.
Oh, j'ai déjà de l'autre, oui. Berta.
Merci. D'abord, merci beaucoup pour cette présentation théâtrale et créative.
Ça me fait plaisir.
Ma question va porter sur les positions des États autour des organisations gouvernementales. Parce que c'est des États qui sont bien attachés aux organisations internationales, il y a des États qui ne sont pas attachés. Il y a des États qui conduisent les organisations internationales. En plus, pour expliquer
avec
la main, il y a des mains qui sont grandes, il y a des mains qui sont petites, il y a des mains qui sont sans doigts, il y a des États, il n'y a même pas de mains des fois. Il y a des effets qui ne sont pas reconnus par les autres États. Sur ce point, ma question, où tout intérêt public sera dans cette théorie transgouvernementalisée, ou est-ce qu'on parle d'un intérêt public global?
L'intérêt public serait peut-être concentré au niveau global, en le sens où on sera toujours, ces fonctionnaires sont toujours capables de justifier leur position en disant nos normes qu'on est capable de mettre, nos normes de contrôle qu'on est capable de mettre en vigueur sont toujours plus élevées que ce qu'il y a actuellement. Parce que nous nous dotons d'une capacité d'intervention que nous avons perdue avec la globalisation. Donc ils diront que l'intérêt public est là. Et en fait, ils se légitimisent un peu. Et ils vont se légitimiser aussi par leur efficacité. En sens que, si ça fonctionne, si on réussit véritablement à faire baisser, je ne sais pas moi, un problème, moi je travaille dans le domaine maritime, si on réussit a baissé le nombre de navires sous normes. Vous savez, les avions de complaisance et autres, les problèmes de sécurité liés à ça. Si on réussit à baisser le nombre de naufrages ou à baisser le nombre de navires sous normes, on est efficace. On a réussi, par notre capacité d'intervention, à réduire les externalités de la globalisation. Ça répond à la question.
Quand même, des fois, par exemple, sur la médecine, peut-être on peut réussir, mais sur certains sujets, par exemple, la sécurité, peut-être les sujets qui sont plus efficaces.
Si on essaie de regarder au niveau de la sécurité au sens policier du terme, peut-être pourront-ils dire que nos moyens de coordination entre policiers ou entre inspecteurs de police ou armées ou autres, si nous sommes à même de coordonner nos interventions, et qu'il y a des attentats qui ne se font plus, mais plutôt qu'il y a des attentats qui sont déjoués, d'un plus grand nombre qui est déjoué, peut-être sommes-nous plus efficaces. Alors, je ne sais pas, ma tête porte là-dessus. Mais c'est un avenue qu'il faut explorer, et c'est eux comment ils pourraient tenter de le justifier.
Parce que ça m'a fait peur, le plus peut-être joli exemple, l'Union européenne et l'organisation supranationale, des fois il y a des décisions de l'European Court of Justice, par exemple la dernière décision pour Irlande, ils ont refusé d'exécuter les décisions des cours de l'European Court of Justice, même s'ils sont membres de. Des fois, c'est pas. Ça peut être toujours.
Je ne dis pas que le modèle est parfait en soi. Mais c'est juste un axe d'analyse. Et ça, on ne peut pas. Si on le laisse sous silence, peut-être qu'on manque quelque chose. C'est dans ce sens-là où je tente de répondre. Vous avez une autre question?
Oui. En fait, j'avais des tas de questions, là, quant au sujet de la légitimité du reste, mais en ce qui a trait plutôt à la genèse de la soft law ou de la création, est-ce que dans la mesure où les communautés épistémiques édictent leurs normes et édictent leurs normes d'application de manière relativement autonome, pas simplement autonome, est-ce que n'importe quel acteur sous-étatique peut être source de droit transgouvernemental?
On pourrait se poser la question, oui. Dans le sens où ils ont un contact avec d'autres États, même sur une échelle régionale.
Exemple,
ça n'a pas nécessairement besoin d'être le monde, ça peut être une portion du monde simplement. Et à ce moment-là, on est déjà du transgouvernementalisme régional.
Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a encore une spécificité du droit ou est-ce que ça la mine d'un certain point de vue et du droit transgouvernemental devient toute forme d'accord pourvu qu'il ne respecte pas une frontière?
En fait, la question, c'est est-ce qu'on voit dans un aspect normatif, est-ce qu'on voit du droit ou pas? Il y a des gens qui vont dire de droit, c'est que c'est un aspect normatif qui relève de la hard law, du droit dur, du droit des conventions internationales, les lois, les règlements, des choses qui viennent de la base de création positive. Mais quand on vient dire, on se donne des normes d'application des normes. Parce qu'il n'y a pas là encore formation de droit, mais une espèce de sous-droit. C'est là que je viens dire qu'il y a une norme interstitielle. C'est dans ce sens-là. Est-ce que ça répond ou est-ce que...
Oui.
J'ai été tout à fait impressionné par la richesse des sources que vous avez consultées pour faire cette présentation. La question que je me suis posée, c'est, puisque c'est une thèse, quelle est la thèse? Est-ce que c'est une thèse qui porte sur les sources du droit? Parce que je vois une multitude d'aspects de questions. Vous avez évoqué public choice, mais public choice, ça, c'est une théorie descriptive.
Oui.
Pourquoi les gens agissent comme ils le font? Plutôt que d'être simplement imbibé de l'intérêt public, les fonctionnaires ont un intérêt précis, et ça permet d'expliquer comment ils font. Pourquoi, dans la thèse que vous voulez soutenir, avez-vous besoin de faire cette démonstration-là? Est-ce que vous voulez au départ simplement décrire le transgouvernementalisme comme phénomène nouveau. Ou est-ce que vous voulez pousser plus loin et dire, mais c'est une forme de droit sur lequel, enfin ça débouche sur des formes de droit sur lesquelles pour l'instant on a peu de prise. Et qu'il faudrait néanmoins peut-être quand même reconnaître, et là je pense que je retrouve votre question, il faudrait reconnaître comme une forme de droit. Alors, question des propriétés de cette forme de droit. Et là, on retrouve la question de la légitimité que vous avez évoquée. Mais, bref, pour revenir à la question, quelle est la thèse dans votre thèse?
Dans ma thèse, directement. Ma thèse, d'abord, c'est sur le contrôle par l'État portuaire. Et c'est dans un contexte de mémorandum d'entente. Et entre autres, je voudrais répondre que ce serait votre deuxième solution. À savoir que, oui, c'est une nouvelle forme de droit. En fait, peut-être, je me sens à l'aise de dire que peut-être on a là un nouveau paradigme du droit qui est alternatif au positivisme. Le positivisme est là depuis des siècles, mais qui est alternatif au positivisme parce qu'il y a une formation d'une norme qui va au-delà de ce qui a été créé jusqu'ici.
Mais dans ce cas, j'ai l'impression que votre thèse porte sur les sources de droit. Et au fond, elle est extrêmement profonde. C'est-à-dire, le positivisme n'a pas tant de siècles que ça. Je pense que si on renonçait les deux siècles, ça serait à peu près tout. Mais au fond, vous posez la question, c'est d'où vient le droit et alors, quel est le droit? Le droit, c'est des règles qui proposent des normes non conflictuelles de résoudre des conflits potentiels. S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de droit. Il n'y a pas d'intérêt pour le droit. Et le droit, le propre du droit, c'est de proposer des solutions non conflictuelles, légèrement formalisées, j'imagine. Et il faut forcément, pour répondre à la question de qu'est-ce que c'est comme bête, est-ce que c'est du droit ou non, il faut forcément s'interroger sur la nature du droit. Et c'est en cela que vous faites quelque chose de très profond. Mais en même temps, ça pose la question si les trois théories que vous avez évoquées sont suffisantes pour vous dédouaner dans cette entreprise.
Je pourrais vous dire que peut-être que ça ne me dédouanera pas aux yeux de plusieurs, si on a toujours des opposants partout. Mais néanmoins, je pense qu'il y a là les fondements, la logique qu'il y a à travers cette dette, comme vous dites. De quoi est-elle animée? Pourquoi est-elle là, d'abord? De quoi est-elle animée? Quelles sont les dynamiques internes? Et pourquoi est-elle là? Quels sont les rapports qu'elle vise? Donc, c'est en ce sens-là que j'essaie d'aller... Je ne peux que constater qu'il y a un effet normatif sur le contrôle par les autorités, dans mon cas-là. Et donc, et moi, j'ai tendance à utiliser le droit comme étant une source normative large. Et donc, j'ai pas de problème à ce qu'on analyse par le droit les normes de la norme d'application. Et c'est en ce sens-là. J'espère que je réponds à votre question, là, mais sinon je me suis perdu dans mes néandres.
Non, je pense qu'au fond, vous répondez très bien, mais j'ai l'impression que votre entreprise est vraiment plus ambitieuse que vous pensez.
Ça sera peut-être vrai, vous trouvez. Ça sera peut-être l'œuvre d'une vie, mais...
d'avoir des ambitions.
Oui.
Oui, j'ai fait très, très intéressant l'exposé et ce phénomène du transgouvernementalisme que vous présentez, mais que je ne connaissais pas comme concept, mais je trouve ça intéressant. Ils ont été potentiellement riches, mais et je pense que ça va rejoindre un peu les commentaires de Yann Mackay. Je me suis demandé pourquoi ces trois théories en particulier, c'est-à-dire la soft law, les communautés épistémiques et la théorie du public choice. Pourquoi celle-là? Pourquoi pas d'autres théories? Parce que on aurait pu penser au charisme juridique en ce sens qu'il y a. Il est facile de voir ou de construire en tout cas plusieurs ordres juridiques autonomes qui sont en relation, et bon, ça a été pris sous cet angle-là. Alors, vous auriez pu avoir recours à la sociologie des organisations, je pense à Crozier-Friedberg, de nom en d'autres, qui attirent depuis longtemps l'attention sur le rôle des niveaux intermédiaires, je dirais, de l'administration. Et comment la conception traditionnelle, très hiérarchisée de la bureaucratie, dans les faits, c'est une vision qui est idéalisée. C'est pas comme ça que les choses se passent en pratique. Il y a plein de zones d'incertitude à l'intérieur des bureaucraties. Donc, ça a pu être une piste intéressante aussi, il y en a plein d'autres. Les théories contemporaines de l'État, vous avez parlé de Chevalier, plusieurs, Mérien, Jessup, etc., qui s'intéressent aux transformations actuelles de l'État. Je ne dis pas ça pour suggérer que vous auriez dû prendre cette approche-là. Mais ce que j'aurais aimé dans votre exposé, mais peut-être vous aviez pas le temps, et j'imagine que ça soit fait dans la thèse, parce que je pense que les lecteurs d'une thèse vont s'attendre à ce que ça soit fait, c'est d'expliquer pourquoi la sélection de ces trois. Pourquoi ces trois théories, plutôt que d'autres, il y en a un paquet de théories qui peuvent être appliquées. Et donc pourquoi la sélection, cette sélection-là, et aussi, je pense qu'il faut mettre les théories les unes en relation les unes avec les autres. C'est-à-dire que public choice, mais quel est le rapport qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire avec communauté épistémique et sauf-là, donc à faire un peu la genèse de ces théories. Je sais que vous n'avez pas le temps de tout faire ça là, pendant la
unité.
À tout le moins, je pense qu'il faut justifier le choix des diverses théories, peut-être, et ça nous ramène au terrain, entre guillemets, de la thèse, c'est-à-dire par rapport à ce que vous allez chercher de manière plus empirique, plus concrète, comme objet de recherche, en montrer le lien aussi avec ces théories et entre ces théories. En fait, idéalement, la sélection des théories devrait être en lien aussi avec ce qu'on recherche.
Si je peux juste intervenir, c'est que bon, je ne suis qu'au niveau du doctorat où je fais l'analyse des documents que j'ai, qu'est-ce qui colle le plus à mon objet de recherche. Et dans cette démarche-là, évidemment, on va aller chercher les auteurs qui vont traiter exactement de ce qu'on peut percevoir dans notre objet. Or, ces auteurs, il n'y en a pas beaucoup sur le transmonumentalisme. Ce n'est pas énorme la quantité de doctrine qui porte sur le sujet. Mais ces auteurs traitent souvent de communautés systémiques, traitent souvent de soft law, traitent souvent de public choice. Et c'est les trois grands axes qu'ils vont utiliser pour tenter d'expliquer le phénomène. Donc, je me suis fié à eux, et d'autant plus que ces doctrines ça se répète souvent, dans le sens où ils se font référence eux-mêmes et ils abordent les mêmes questions de la même façon et les mêmes orientations. Donc, j'aurais pu explorer plus loin, mais c'est déjà beaucoup pour une thèse d'essayer d'amalgamer tout ça ensemble. Si je peux déjà utiliser ces trois théories ensemble, ça sera pas si mal, je crois. Par ailleurs, au fin de l'exposé ici, je les ai utilisés parce qu'ils couvrent trois dimensions d'intérêt pour la communauté juridique. Des intérêts d'analyse économique, des intérêts d'analyse sociologique, des intérêts d'analyse liés au droit international. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était quelque chose qui pouvait interpeller la plupart du monde.
Oui, je pense qu'avec ce que vous dites, vous êtes certainement sur la bonne voie. Je vous suggère quand même si vous êtes juste au doctorat, je vous suggère quand même de vous interroger à ce moment-là si les promoteurs du concept et de la notion et de l'analyse du transgouvernementalisme font recours de manière commune à ces trois approches théoriques, en fait, interrogées. Essayez de situer un peu ce courant-là. Pourquoi ces choix et pas d'autres? Ça, je pense que ça peut être aussi fort intéressant. Une petite réflexion comme une critique sur le cadre théorique.
Je n'y manquerai pas, ça c'est certain.
Même si vous êtes juste au milieu.
On saura. Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui.
C'est une question. Est-ce que le... Parce que ça, moi, je me suis dit, il est juste un grand, mais il n'a pas peur de se mouiller.
Jamais, faut jamais avoir peur de se mouiller.
Non, non, mais dans le transport maritime, on se mouille tout le temps.
Mais moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que le... Est-ce qu'il y a... est-ce que le soft-là est le seul... ou est la principale ou la seule production normative des réseaux transgouvernementaux? Est-ce que ces réseaux, par leur fonctionnement, est-ce qu'ils peuvent produire autre chose que du soft-là? Est-ce qu'ils peuvent produire du hard?
On peut, il va y avoir quelqu'un qui va mentionner... vous me demandez de rentrer dans ma bibliographie, je ne ferai pas ça. Simplement, je vais le mentionner sous un terme anonyme. Il y a quelqu'un qui mentionne que, oui, à quelque part, ces normes interstitielles, c'est l'antichambre, ça fait bien ce mot finalement, c'est l'antichambre du droit positif. En ce sens où peut-être ces normes deviendront du droit positif. Et en cause de ce que j'ai vu dans ma thèse, c'était qu'il y avait des organisations, le gouvernement donnait leur accord à l'agence gouvernementale pour conclure des mémorandums, mais de manière très, très sommaire. Donc, on vient chercher par le positivisme ce qui existe déjà. Donc, ça serait une source, peut-être, aussi. Au-delà de la source là, mais sur un point de vue national, comment est-ce qu'on vient réhabiliter ou la légitimité du transgouvernementalisme, ou du moins des moyens du transgouvernementalisme. Voilà.
Il me semble que, pour poursuivre un peu sur la section de Pierre Thomas, il me semble qu'il y a peut-être une vingtaine d'années, il y a eu une littérature sur la pseudo-législation, où on parlait des circulaires, des ministères, etc. Là aussi, avec l'idée qu'est-ce que c'est le droit? Non, est-ce que ça prépare du droit plus explicite?
Ça, c'est un aspect que je n'ai pas voulu aborder ici. J'aurais pu mettre l'emphase sur est-ce que nous sommes dans de la régulation? Est-ce que nous sommes dans de la gouvernance? On va au-delà là, de ce qui existe de... Si j'avais abordé cette question-là, j'aurais dû faire une espèce de pyramide en disant on est dans de la régulation générale avec les théories de la régulation, ensuite on est dans certains aspects de la théorie de la gouvernance, et là à ce moment-là on arrive tranquillement au transgouvernementalisme. C'est une autre voie d'accès. Moi j'utilise comme une prémisse dans ma thèse, mais tout simplement pour dire où on en est dans le transgouvernementalisme, dans cette espèce de hiérarchie normative. Cette hiérarchie normative alternative.
Mais il y a intérêt quand même à rechercher des ressemblances avec des phénomènes qui ont une certaine similarité et dont on a déjà traité par le passé. Hein.
Oui, c'est possible, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Le vase de sujet est là. Ça, c'est certain.
Donc, le droit spontané de Pascal Demier, thèse il y a 3 ans, je pense.
J'ai pas dit celle-là, par contre.
2002? Ok, voyage 5 ans. Pascal Demier.
Ok, je vais marquer ça.
Pascal Le Femme.
Donc, je vais vous interrompre pour quelques minutes parce que le repas est arrivé. Je sais que certains d'entre vous ont des obligations depuis l'après-midi, donc je vous en voudrais pas si vous prenez votre assiette, que vous la redescendez à votre bureau. Évidemment, je vous invite à rester, continuer à discuter du sujet. Je vous remercie en votre nom. François, d'avoir lancé le bal pour ce cycle de séminaire, ma barre et autres maintenant, pour les prochains conférenciers. Donc, merci beaucoup à tout le monde.